Baptiste.
Paul Renard.
Thierry Gauthier.
Nous retrouvons pour une nouvelle émission Touche pas à mon schiste. Alors cette fois-ci, on est justement sur le lieu anniversaire qui est à Villeneuve-de-Berg en Ardèche, hein, où le collectif finalement s'est créé sur place. Bonjour Paul.
Bonjour Thierry.
Alors on va présenter nos invités. On a Christophe Léon, qu'on connaît déjà, qui a parlé déjà au micro à Radio M.
Oui, bonjour Thierry.
On a Christophe. Pas mon schiste.
Paul Renard.
Thierry Gauthier.
Pour coordination également nationale.
Bonjour Thierry.
On a Richard Neuville.
Bonjour.
Bonjour. Qui est la commission fonctionnement, pyramide j'imagine.
Fonctionnement.
Tout à fait. Après on a Alain Joffre, commission transition énergétique.
Bonjour Thierry.
Et puis on a Jean-Louis Chopi qu'on ne présente plus, qui est le porte-parole du collectif 07.
Plus. Il m'aurait bien se multiplier parce que...
J'ai plus de voix déjà.
Bah, puisque je vous ai justement sous la main, parlons de cette journée d'aujourd'hui, avant de parler finalement de la structure du mouvement, cette journée anniversaire.
Oui. Ben oui, parce que il y a quand même un an, jour pour jour, c'est une ambiance formidable. On ne s'attendait pas à être autant. C'était chaud, c'était vibrant. Là. On avait mobilisé toute une portion de nationale à côté. Là. C'était formidable.
Les gendarmes avaient même empêché.
Les gendarmes avaient dévié un truc. On a vu des jeunes couples avec la poussette s'amener à la fin de la manif, parce qu'ils avaient fait 5-6 kilomètres.
Non, ça a lancé un peu le mouvement, finalement, à l'époque, hein, parce que plus de 15 000 personnes présentes.
Voilà. On avait créé donc le collectif mi-janvier, mais là ça a été le point d'orgue, c'est vrai, et ça a fait flamber. Il n'y a pas que des heures des choix d'ailleurs, hein. C'est venu un peu partout. C'était vraiment la formulation d'un ras-le-bol, quoi, d'un ras-le-bol contre ce mépris de l'annonce. C'était viscéral,
oui, parce que finalement on avait court-circuité à la fois les citoyens, mais surtout aussi les politiques, les élus locaux, hein.
Tous, y compris les nationaux d'ailleurs,
bon. Et puis mouvement a eu un relais médiatique qui était important, puisque...
Exactement. Bah, il faut dire que quand les populations se mettent en marche et montent en ras-le-bol, heureusement que les médias nous suivent, les médias à notre échelle, je ne parle pas des médias nationaux qui sont un peu spéciaux dans le fonctionnement, surtout actuellement, hein. Mais les médias locaux, les médias départementaux, les médias régionaux suivent, parce qu'ils sentent que c'est là que jaillit la vraie parole des gens.
Tout à fait, quelque chose d'important qui se passe, et il faut y être, quoi.
Il faut y être, voilà, et puis le répertorier.
Et puis des médias.
Voilà, exactement.
Alors depuis, donc, c'est créé le collectif 07, hein, il s'est développé et avec un fonctionnement très original. Christophe Tour, on peut parler de la coordination nationale, alors qui est... donnons un peu le détail à nos auditeurs.
La coordination nationale est un lieu d'échange et de débat dans lequel viennent se réunir les collectifs locaux de France. Elle se veut être une force de proposition, non pas de décision, mais de proposition, permettant à tous les collectifs d'œuvrer dans le même sens et de réfléchir dans le même cadre, dans le même référentiel.
Donc le collectif 07 est membre, bien sûr. Voilà,
le collectif 07 a la particularité, lui, de représenter plus d'une centaine de structures, d'organisations et de collectifs. Et ces structures sont représentées au sein de la coordination nationale par le collectif 07, par les représentants du collectif 07.
Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de parler finalement du fonctionnement. Alors là, on va revenir plus peut-être à Richard Neuville pour parler du fonctionnement un petit peu, parce que vous avez structuré ça en commission.
Hein, oui, enfin, tout d'abord, parler donc de la composition quand même du collectif,
voilà,
qui est un peu caractéristique en Ardèche, puisqu'il regroupe à la fois les collectifs locaux, des associations, des syndicats et des partis politiques. Et donc, tout le monde a réussi à travailler ensemble en adoptant donc un système de fonctionnement horizontal et qui est assez remarquable, où effectivement, qui est à la fois de par son pluralisme, mais aussi au niveau des pratiques démocratiques qui ont été adoptées.
Dans le détail, le fonctionnement horizontal fait que finalement chacun a une voix et on n'a pas de structure avec des gens qui représentent des gens, quoi.
Si, c'est-à-dire que, si vous voulez, les collectifs, les différentes composantes du collectif sont ont deux représentants, hein, deux délégués, donc ils sont censés défendre donc les positions qui ont été débattues préalablement dans leur instance,
hein, instance hein,
que ce soit les collectifs locaux ou organisations politiques. Alors, par rapport à la commission, donc tout le monde a salué quand même le fonctionnement exemplaire donc de ce collectif, mais pour autant, il nous a semblé important de mettre en place une commission en fonctionnement pour encore améliorer et aussi, je dirais, pour de manière pour formaliser les choses, d'autant plus que donc il y a d'autres collectifs en France nous ont demandé d'expliquer un peu comment on fonctionne, et donc il nous a semblé important donc de réfléchir collectivement donc à ce fonctionnement, et de toute façon on peut toujours l'améliorer. Hein.
Proposer un fonctionnement un peu original, une structure un peu originale, et qui finalement a guère été testée jusqu'à présent, et qui fait peut-être la force de ce mouvement, et on verrait sa grande stabilité aussi dans le temps. Qui fera peut-être sa grande stabilité dans le temps.
Qui n'a jamais été testé, si, mais dans d'autres domaines. C'est-à-dire que, mais par contre, effectivement, c'est la particularité quand même de ce collectif 07 sur les gaz de schiste. Hein. Sur d'autres luttes, il y a eu des collectifs un peu similaires, de fonctionnement. Ce que j'appelle moi donc un front écolo, social et politique et citoyen, hein, donc qui est quand même une originalité et qui permet la pratique a démontré que tout le monde allait dans le même sens, qu'il y avait une écoute importante, hein, la prise en compte de la parole des autres, le fonctionnement au consensus qui est très important si on veut avancer et quand on veut mener une lutte dans la durée, hein, parce que moi j'insiste bien dans la durée, puisque effectivement c'est le premier anniversaire, mais on sait très bien que la lutte sera très très longue et il fallait vraiment créer une structure qui permette
de tenir.
De tenir, voilà.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois finalement les gens s'expriment bien sûr personnellement, mais au bout du compte tous ces délégués, ces référents parlent au nom du collectif. Voilà, c'est ça. Les gens donnent non pas leur sentiment personnel sur les différentes actions, mais donnent toujours une sorte de parole du collectif qui a été bien sûr discutée, validée.
Une fois que le débat a eu lieu et que la décision a été prise, effectivement l'ensemble des composantes portent la parole du collectif.
D'accord. Parlons des... oui.
Mais il faut souligner une chose, c'est que dans ces réunions, les réunions qui visent le consensus durent toujours beaucoup plus longtemps qu'une réunion où il y a un directeur qui vient tout. Hein. Mais par contre, au bout des discussions, quand on arrive à peu près un consensus, c'est beaucoup plus fort.
C'est plus acquis.
C'est plus acquis, c'est fondamentalement acquis. À ce moment-là, la parole se porte de soi-même. Il n'y a pas besoin de se forcer et de tromper ce qu'on a dans la tête. C'est important. Mais ça dure plus longtemps. Voilà. Souligner.
Surtout que ça dure plus longtemps.
Et en plus, je pense qu'il y a une plus grande maturation peut-être aussi des idées et des positions. Elles sont peut-être, elles prennent le temps de s'installer, mais quand elles sont installées, elles sont vraiment...
Oui, c'est bien de se donner le temps, en fait, que les décisions, pour prendre les décisions finales. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est les plénières qui sont souveraines. Hein. C'est les plénières où il y a tous les délégués de toutes les associations fondatrices et tous les collectifs locaux. C'est ça qui est le plus important. En fait. C'est là où les décisions sont réellement prises.
C'est intéressant aujourd'hui aussi de parler du travail des commissions, puisque il y a une seule commission, il y a trois commissions principales, et d'ailleurs on a des représentants aujourd'hui. C'est la commission énergétique, hein, la commission transition énergétique, excusez-moi, la commission via vigilance, information, action, on parlera aussi, qui est très intéressante, et puis la commission qui est sur les pyramides, je crois, sur le fonctionnement des pyramides. Voilà. On parlera sur les commissions.
Il y a une commission scientifique et technique, voilà, une commission finance, une commission permanence. On a créé des commissions qui nous semblaient nécessaires. Au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, on a dit il faut créer des commissions qui travaillent sur des parties de l'action, de ce qu'il faut fabriquer, pour pas se dans les réunions plénières, pour pas se diluer. On n'y arrive plus à ce moment-là.
Pour avoir un vrai travail en profondeur, c'est ça.
Oui, sur chaque secteur.
Chaque secteur. Voilà.
Par exemple, la commission finance n'a rien à voir ou pas grand-chose avec la commission pyramide, les pyramides téléphoniques d'alerte. Donc voilà, chaque commission comprend, disons, entre 5 et 15, parfois 25 personnes qui travaillent dans d'autres réunions. Voilà.
Pour revenir à Alain Joffe qui nous parlait tout à l'heure là, sur la fameuse commission transition énergétique, alors c'est un sujet important parce que c'est souvent dans beaucoup de combats le défaut qu'on fait en disant ben voilà, vous êtes contre tout, mais qu'est-ce que vous proposez en échange? Alors justement, l'idée c'est d'être, d'avoir aussi un vecteur de proposition.
En fait, il est vrai que ça a été assez long, elle est toute jeune cette commission, parce qu'on a mis un certain temps à la mettre en place, puisque l'énergie était mise sur la lutte. Il était urgent de s'organiser, tout d'abord. Mais dès le départ, quand même, l'idée, c'était d'avoir deux pieds, c'est-à-dire à la fois mettre en cause les projets qui s'avéraient sur nos territoires, et en même temps réfléchir à long terme sur un processus de réflexion, de débat sur l'avenir énergétique, sur l'état des lieux de l'énergie en France et sur nos territoires.
Alors même, d'ailleurs, pour pas être trop dans les détails, mais on peut dire quand même que vous positionnez donc contre bien sûr les gaz et les huiles de schiste, mais aussi contre toutes les énergies fossiles, même minerais fossiles, et là on pense aussi au nucléaire.
Alors en fait, on n'a pas une position déterminée. Ce qu'on veut, c'est ouvrir le débat. Donc on a un groupe de travail qui réfléchit et qui établit déjà des fiches thématiques sur l'état des lieux des énergies et sur les modes de débat démocratique. Et ensuite, on ouvre le débat avec les collectifs, dans les collectifs, avec toutes les associations, sur les différentes problématiques que pose le changement climatique et la problématique de l'énergie.
Tout à fait.
Alors, il faut dire qu'aussi, nous sommes signataires de la déclaration de Lausanne, qui a été signée en août 2011, qui induit une convergence citoyenne sur la remise en cause donc des énergies fossiles, du nucléaire et l'encouragement des initiatives alternatives locales, décentralisées vers les énergies renouvelables.
Le but c'est de fournir des contre-arguments aux pétroliers bien sûr, qui disent il y a une masse de gaz gigantesque et on va pas pouvoir utiliser ça, indépendance énergétique, et également de donner des arguments peut-être aux politiques justement pour défendre la position des
Alors c'est surtout se donner nous des arguments pour créer des initiatives locales. Et je vois même sur Valvinière, là, ils ont engagé des groupes de réflexion à la fois sur le transport, sur l'eau, sur l'habitat, et je pense que c'est là par en bas que nous allons revoir un peu l'avenir énergétique de l'indépendance énergétique de la France, de notre pays, de nos territoires. Je pense que c'est par en bas et c'est en décentralisant au maximum au plus près. Et puis il ne faut pas oublier la problématique de la précarité énergétique qui se pose pour beaucoup de gens.
On l'a vu avec cet hiver rigoureux, tout à fait. N'oublions pas, donc on est là au bout d'un an, il s'est passé beaucoup de choses et en même temps il ne s'est pas passé grand chose sur le terrain. Finalement, il y a eu un blocage qui fait qu'il y a eu une sorte de loi qui est passée, il y a eu des permis qui ont été annulés dans la région, mais on sait très bien qu'il va y avoir à un moment ou à un autre des explorations qui vont se faire sur le terrain.
Non.
Et justement, la commission, alors Christophe Léon qui n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, et on va parler justement d'une commission qui est vraiment intéressante, c'est la Vigilance Information Action, la commission VIA. Alors qu'est-ce que c'est cette commission? Quel est son but?
Alors cette commission s'occupe d'organiser toute la structuration des interventions qui vont s'avérer nécessaires au moment où les entreprises vont venir pour commencer les forages. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas de se retrouver à 50 pour bloquer des camions qui sont prêts à faire leur travail. Cette commission est en fait extrêmement liée avec une seconde commission dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est la commission Pyramide. Donc en fait, pour donner un schéma global du fonctionnement, le collectif met en place un système d'alerte qui consiste à monter une pyramide d'alerte téléphonique qui est en fait un listing dont les gens donnent leur numéro de téléphone. Ils sont contactés par SMS, par une commission.
Et chacun rappelle une dizaine de personnes, etc.
Voilà. Alors, ce système est, contrairement à tout le reste du fonctionnement du collectif, un système pyramidal.
Tout à fait. Voilà. Là, il a le pyramide, finalement.
C'est là où il y a une pyramide. Sa particularité, c'est qu'elle fonctionne dans les deux sens, du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est-à-dire que des gens qui font partie de cette pyramide d'alerte, qui sont dans la population comme vous et moi, ou qui font partie d'un collectif local, voient des camions arriver. Ils alertent, ils connaissent, ils ont un numéro de téléphone à joindre, ou un référent local. Ce référent local, ensuite, s'adresse à un comité de vigilance du du collectif 07, qui lui-même va chercher à valider ou non cette alerte. Voilà. Donc, à partir du moment où le comité de vigilance peut valider l'alerte, cette alerte va redescendre sous forme de SMS, appel téléphone,
on
repart dans l'autre sens, alerte mail, etc.
Et alors, vous êtes capable de mobiliser dès le départ, je crois que dans la première heure, pratiquement 400 personnes, dans la deuxième heure, encore 400, et puis tous les autres qui vont venir
exactement.
En même temps.
Exactement. À partir de cette liste de gens qui se sont déclarés prêts.
Sud-Ardèche, on parle bien de Sud-Ardèche.
On parle de l'ensemble de l'Ardèche. Hein.
D'accord.
Parmi dans cette liste, nous avons des gens qui se sont déclarés prêts déjà à répondre à cette alerte. Donc nous avons testé cette alerte en grandeur nature et on s'est aperçu qu'effectivement, globalement, en l'espace de quelques heures, on peut regrouper un premier noyau de personnes d'environ 400 et à l'issue de la journée, se trouver avec un noyau de 2000 personnes. Entre-temps, il y aura évidemment tout un travail de prise de contact avec la population, donc ça va être en fait beaucoup plus large que ça. Ce qui est clair, c'est que très très rapidement, au bout de quelques heures, on est suffisamment nombreux pour bloquer de façon efficace, de façon à être entendu, et donc c'est là où intervient le travail là, maintenant de la VIA.
On parlait avec Paul Reda, justement, c'est tout le travail finalement qui est d'assistance juridique, vous avez pu prévoir également, semble-t-il, également stratégique, mais toute l'organisation sur place, hein, c'est un petit côté très militaire,
mais
c'est un bras armé finalement du collectif.
Il faut forcément être organisé, quoi. On peut pas faire venir 2000 personnes et leur dire débrouillez-vous, quoi. Donc on a mis en place tout un travail avec des avocats de façon à pouvoir évaluer les risques juridiques et financiers, de façon à pouvoir à ce que chacun puisse être défendu s'il en met à garde à vue. On a aussi les mises en place d'antennes médicales, la mise en place de personnes qui vont s'occuper du ravitaillement, de l'alimentation. Si on fait venir 2000 personnes et qu'elles restent 3 jours sur place, on va pas les laisser mourir de soif. On a une mise en place vraiment militaire, on va dire, même si
qui donne de l'efficacité
on est hyper organisé, prêt à accueillir, prêt à les accueillir. Ils viennent quand ils veulent, on est même pressé qu'ils viennent, ça nous démange. Allez-y les gars.
Parce que finalement le message, il est à la fois pour les pouvoirs publics et les grands groupes pétroliers, hein, c'est que vous êtes prêts et finalement vous êtes plus que prêts. Et puis le deuxième message, c'est pour tous les sympathisants, les militants qui vont s'engager dans les pyramides d'alerte et qui vont venir sur place, leur dites vous serez quand même couverts, il y a des avocats,
non seulement vous serez couverts, mais c'est du sérieux. On est dans un mouvement non violent, donc on se donne aussi les garanties pour que la population civile ne se trouve pas en face d'actions violentes, de groupes incontrôlés, par exemple, on met un service d'ordre en place. Au niveau de la communication, on a des gens qui vont directement faire un travail avec les médias locaux et nationaux immédiatement, dès le début des blocages. On a des gens qui sont prêts et qui doivent entrer en relation avec les autorités locales, la gendarmerie, les mairies, etc. Donc, tout le monde, dès le premier quart d'heure où on a décidé de faire un blocage, tout le monde est au courant. Et tout le monde sait de quelle façon on va agir et avec quelle rigueur et en même temps, quelle prudence. Et là, les enfants de 3 mois peuvent venir.
Monsieur Chopi, donc porte-parole du collectif 07. C'est intéressant parce que c'est une dimension hyper professionnelle qui est assez impressionnante de l'extérieur.
De l'extérieur, effectivement, un jour, on était en réunion avec des ingénieurs de Paris là, pour nous questionner. Et puis, il y avait le préfet et le sous-préfet de l'Argentière. Le sous-préfet de l'Argentière qui dit au préfet, il paraît que le collectif est capable de réunir 3000 personnes en un quart d'heure. Je lui dis, monsieur le sous-préfet, quand même pas en un quart d'heure, mais 3000 personnes, oui. Donc, c'est vrai que c'est remonté, on le dit chaque fois qu'on est dans des réunions publiques, on le dit, messieurs des renseignements généraux, faites remonter, nous sommes prêts, ils ne viendront pas, ils ne s'implanteront pas, nous les bloquerons sans violence de notre part, mais nous les bloquerons.
Vous voulez dire c'est une sorte d'équipe de la terreur finalement?
Oui, c'est un peu ça. Puisqu'ils s'imaginent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. La preuve, ils ont décrété qu'ils pouvaient perforer des centaines de puits chez nous sans qu'on réagisse. Ils ne nous ont rien demandé, ni même à nos édiles proches. ministre ni aux élus un peu plus, rien. Alors ils se foutent de nous. C'est ça qui a fait réagir si violemment la population dès le début. On se fout de nous. On va creuser chez nous dans nos vignes, etc., sans rien nous demander. De suite, ça a flambé.
Christophe Thor, un mot sur cette.
Sur VIA ?
Oui.
Ben oui, VIA, c'est une structure donc, qui est actuellement en place, qui est chargée donc, d'identifier tous les convois, tous les camions qui circulent depuis des mois et actuellement sur les routes, dont nous avons régulièrement en contact avec tous les membres des pyramides, avec les veilleurs de base qui nous envoient des infos. Nous, ces infos, nous allons les vérifier, nous allons diffuser l'information, lever des. Ou mettre en place des vigilances, puis les lever par la suite, puisqu'actuellement aucun travail de fracturation ou même d'étude n'a été effectué. Et ensuite, nous travaillons à mettre en place la mobilisation rapide de la population pour un blocage efficace.
Alors, ça, c'est vrai que c'est vraiment la partie maintenant importante du travail du collectif et qui est la partie qu'on va sans doute voir. Et là, c'est dans les mois qui viennent.
C'est certainement vers ce point que nous allons, puisque au final, ça se décidera très certainement, si ce n'est dans les urnes, sur le terrain.
Voilà. Merci à tous. Voilà, c'était une émission qu'on a fait dans.
Je terminerai par un dernier mot. Oui, notre message, c'est nos Gazarans, hein, ni ici, ni ailleurs, ni maintenant, ni jamais.
Voilà, on n'oublie pas effectivement que la parole du collectif, c'est aussi, c'est pas que l'Ardèche, ni la France, sinon plus, ni en Europe, ni dans le monde entier.
Hein. Voilà, exactement.
Voilà, tout à fait. Voilà.
Ça menace, c'est global. Hein.
Donc, c'est une émission qu'on a fait dans un bar à Villeneuve-de-Berg. Alors, je me rappelle d'ailleurs que le maire de Villeneuve-de-Berg avait donné ce témoignage qu'effectivement, en janvier, je crois, il y a plus d'un an, c'était fait également dans un bar. Hein. Je crois que les premières réunions informelles avec, je crois, les écologistes, c'était fait dans un bar sur le forage.
Oui.
Non. Merci à tous.
Toujours.
Merci à tous.
Et,
merci.
Au revoir.